Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. L'interview du jour.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui avec moi dans le studio, Christian Robin, conseiller en formation continue au Greta, plus particulièrement en charge de la restauration, du bâtiment et de l'hôtellerie-restauration. Et il est venu annoncer les formations à venir, car apparemment le Greta fourmille de projets. Monsieur Robin, bonjour.
Oui, bonjour.
Peut-être avant de vous introduire ces nouvelles formations, pourriez-vous faire un bref récapitulatif de la vocation du Greta? Qu'est-ce que fait le Greta ici même à Adi?
Alors la vocation du Greta, elle est simple, elle est pour s'occuper de ce qu'on appelle la formation continue des adultes. Donc en fait, c'est tous les gens qui sont sortis du système scolaire et qui ont intention de se former dans un métier nouveau et de reprendre une carrière professionnelle autre que l'activité qu'ils ont actuellement. Même s'ils sont demandeurs d'emploi, ça peut s'adresser aussi à des salariés. Voilà, le public est varié.
Alors, combien de personnes passent entre vos murs tous les ans pour se former ?
Alors, excusez-moi, mais j'ai pas le nombre de personnes. Mais le Greta, c'est quand même une centaine de salariés, 140 vacataires. Et donc, on est situé sur un territoire très vaste qui fait donc de l'Ardèche à la Drôme. Drôme Nord, Ardèche Centre et Drôme Centre.
Alors, les salariés dont vous venez de me parler ne sont pas ceux qui sont à dire, c'est pour tout le Greta.
Alors je parle de l'ensemble de l'activité du Greta Viva 5, le centre de Die étant un centre parmi les autres centres du Greta.
Il y en a combien à peu près ?
Eh bien, nous avons, donc au niveau de l'activité, nous sommes basés à Privas, à Viviers, à Tain-l'Hermitage, à Tournon, à Annonay, à Saint-Vallier, à Romans, à Valence et à Crêts.
Et alors, est-ce que ces différents...
Et à Die, bien sûr.
Et est-ce que ces différents centres ont des vocations spécifiques ? Est-ce que chaque centre a sa spécialité, par exemple ?
Tout à fait. Sur chaque centre, on développe des activités différentes qui vont de l'informatique, en passant par le tertiaire, le bâtiment, l'hôtellerie-restauration, le santé sociale, l'insertion, les bilans de compétences, la création d'entreprises. Voilà, on a une activité de formation très variée.
Et je suppose que, puisque vous venez nous voir pour promouvoir vos nouvelles activités, que c'est les centres qui choisissent leurs spécificités, ou alors quand même il y a une espèce de répartition au point de vue géographique?
Alors on va dire que les spécialités qui se sont développées sur Die particulièrement font appel à ce qu'on appelle nous des niches, c'est-à-dire c'est des formations qu'on ne trouve pas forcément ailleurs et qui nous permettent de drainer du public en dehors du Diois et de maintenir une activité sur Die assez importante, puisque le centre de Die représente une activité importante du Greta.
Voilà. Alors justement, parlez-nous-en plus précisément, quelles sont les spécificités en matière d'éducation, de formation qu'assume le Greta de Die ?
Alors sur Die, donc on va faire une petite liste un petit peu des activités de formation. Donc ça va des travaux sur corde, à l'ouvrier professionnel de la chaux dans le bâtiment, à l'électricité, aux techniciens développement durable, et puis après des formations, bilan de compétences, création d'entreprise, voilà en gros toutes les activités qui, et l'éco-construction, bien sûr, j'allais oublier, qui est en cours actuellement. Donc voilà en gros les spécificités du Greta de Die.
Alors, selon le type de formation et le public auquel vous vous adressez, ce ne sont pas forcément les mêmes formations. Combien dure une formation en général ?
Alors, vous avez des formations très courtes, hein, qui peuvent être de 70 heures, qui sont des formations d'initiation ou de perfectionnement, on va dire. Et puis, vous avez des formations longues qui font appel à des métiers qui vont, en gros, de 500 à 700 heures de formation en centre.
Alors, 700 heures, rappelez-moi, qu'est-ce que ça peut représenter en termes de mois, par exemple ?
700 heures, si on compte 150 heures par mois, là, j'ai pas fait le calcul, mais...
5-6 mois,
voilà. Quoi, en... Bon, ça c'est le centre, mais en règle générale, il y a toujours aussi une alternance en entreprise qui est réalisée, qui est à peu près de l'ordre de 3 mois. Donc vous rajoutez le centre, plus l'entreprise, et vous avez quand même des parcours longs qui peuvent s'étaler, on va dire, de septembre à avril, dans ces eaux-là, quoi. Voilà.
Alors, sachant que le chômage fleurit,
oui.
Je suppose que vous n'avez pas de problème d'activité.
Alors, je ne vais pas dire les choses comme ça. Problème d'activité, non, on n'a pas de problème d'activité, mais c'est vrai que le recrutement sur certains métiers est plus compliqué que d'autres. Et je parlerai bien évidemment du bâtiment, où ça reste un métier qui n'est pas forcément médiatisé, qui fait appel quand même à des travaux à l'extérieur, qui sont quelquefois un peu durs. Et il n'y a pas forcément un engouement du public sur ce type de métier. Donc effectivement, les recrutements nous nécessitent donc d'avoir une information très importante auprès du public. Et c'est un peu le pourquoi de ma venue ici, quoi. Voilà.
Mais donc alors, ma question était, vous n'avez pas de soucis pour proposer des formations? Enfin, je veux dire, il y a toujours le marché de la formation.
Alors, le marché de la formation, il faut savoir un petit peu comment il se décompose. Il est de deux ordres. Hein. Il est de la formation de salariés. À ce moment-là, on a affaire aux OPCA, des entreprises qui financent la formation de leurs salariés. Et puis, vous avez là, entre guillemets, le marché des demandeurs d'emploi qui, là, fait appel aux compétences du conseil régional et de Pôle emploi. C'est-à-dire que nous sommes soumis à des appels d'offres du conseil régional qui demandent donc aux organismes de formation s'ils sont en capacité de répondre sur des formations à mettre en œuvre. Donc voilà, cette année par exemple, nous avons donc un appel d'offres du conseil régional très important qui nous permet de nous positionner et d'avoir, si nous obtenons les marchés bien évidemment, une pérennisation sur 3 ans.
Parce que ce n'est pas le cas en général, vous n'avez pas tellement de vues à long terme.
On a une vue à 3 ans. C'est déjà pas mal.
Vous pourriez faire une formation pendant 3 ans et puis après, il n'y aurait plus commande de...
Alors, il y a deux solutions. Soit la région peut éventuellement, puisque c'est la région à 80 ou 90% qui est un budget très important sur la formation continue des demandeurs d'emploi. Donc, il y a deux solutions, effectivement. Soit la formation proposée est retirée du catalogue, entre guillemets. Soit c'est un concurrent qui emporte le marché. Voilà.
Donc c'est au mieux disant et au moins coûtant.
Alors c'est pas que le mieux disant, c'est aussi sur la qualité de la formation. C'est un critère. Le critère moins disant, bien sûr, rentre en ligne de compte. Mais c'est surtout quand même le retour qui est fait, puisque nous organisons des bilans intermédiaires, des bilans finaux avec nos partenaires, c'est-à-dire Pôle emploi, mission locale. Et à partir de là, ça remonte au conseil régional, à la fois sur la qualité de la formation dispensée et à la fois sur le retour à l'emploi des personnes qui ont suivi cette formation. Voilà, c'est les deux critères, si vous voulez, primordiaux sur lesquels la région va continuer à financer des formations ou arrêter de financer des formations. J'ai déjà eu le cas de certaines formations, notamment sur Romans, puisque moi je suis basé à Romans. Sur le diagnostiqueur immobilier, cette formation a été purement et simplement supprimée par la région parce qu'il n'y avait pas assez de débouchés à l'emploi. Voilà.
Donc en fait, il est relativement facile d'évaluer la compétitivité, l'efficacité de vos formations en regardant le taux de retour emploi des gens qui sont formés chez vous.
Eh bien, vous savez, nos clients, entre guillemets, c'est quand même les demandeurs d'emploi. Donc, c'est eux qui sont, comment dire, juges et partie du suivi de l'action qu'ils ont menée pendant 6 ou 7 mois et qui vont faire un retour lors des bilans sur qualité des formateurs, qualité de la pédagogie, qualité de l'accueil. Et nous, après, c'est transmis à la région. La région effectue des contrôles aussi pour voir directement auprès des demandeurs d'emploi s'ils sont satisfaits des prestations de l'organisme de formation, ce qui est normal puisque c'est nos impôts. La région, c'est nos impôts. Et donc, je comprends très bien que la région souhaite vérifier que l'argent qu'elle dépense est bien utilisé.
Mais est-ce que vous, en tant que Greta, suivez personnellement les gens qui sont formés entre vos murs pour voir un peu si ce que vous proposez est efficace?
Je dirais même plus, c'est une obligation. C'est une obligation d'avoir un suivi à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, à 3 ans, pour savoir ce que sont devenues les personnes qui sont passées entre nos mains. Voilà, il se trouve aussi que, donc j'en parlerai après, que nous avons déposé une certification à DI, l'ouvrier professionnel de la chaux dans le bâtiment. Et nous avons pour cela, pour pouvoir postuler à une certification, nous avons fait une enquête sur 6 ou 7 ans des promotions pour voir que sont devenues ces personnes. Beaucoup sont soit à l'emploi, soit ont créé eux-mêmes leur propre entreprise.
Donc vous voilà. Êtes contente de votre efficacité ?
Moi, je veux dire, mon but premier, c'est quand même d'amener les gens à se former, à devenir des professionnels et à rentrer dans la profession. Moi, je n'ai que ce seul but, moi-même étant passé aussi par la formation, comme beaucoup de gens, et en avoir retiré beaucoup de bénéfices. Donc, je pense que notre culture du Greta, c'est ça, quoi. Hein. C'est de dire, voilà, on fait de la formation pas pour faire de la formation pour uniquement nos personnels, mais c'est aussi avoir des résultats derrière qui sont probants. Et je suis en lien beaucoup avec les syndicats des artisans, la CAPEB et tout ça. Et ils reconnaissent le travail effectué par le Greta et les résultats obtenus.
Très bien. Bon, alors, c'est très heureux.
Oui.
Donc, vous êtes venu nous annoncer 4 nouvelles formations.
Voilà, je suis venu vous annoncer 4 démarrages de formation, dont 2 sur 10, une sur Chaumérac, c'est-à-dire vers Privas, au lycée professionnel, et puis une spécificité que nous avons depuis 2 ans, qui est la mention complémentaire sommellerie, qui a lieu à Tain-l'Hermitage et qui s'adresse à des publics issus donc de l'hôtellerie-restauration, CAP service, CAP restaurant, BTS hôtellerie, bac pro, etc. Donc voilà, je voulais parler un petit peu de toutes de ces 4 actions. Voilà.
Je vous en prie.
Donc, on va commencer par le CAP ProElec, qui est le CAP électricité, qui va démarrer le 29 septembre 2014 à DI, et qui va se dérouler sur 600 heures en centre et 400 heures en entreprise. Donc, cela permet d'avoir des compétences en électricité, et l'insertion dans le milieu professionnel est relativement simple, puisqu'il y a quand même de la demande, et l'intérim recherche beaucoup des gens diplômés en électricité. Ensuite, vous avez un CAP aussi qui marche très très bien, qui est le CAP installateur thermique, anciennement chauffagiste si vous voulez, hein, voilà, parce qu'installateur thermique c'est un nouveau terme qui a été mis, a lieu à Chaumérac, donc au lycée professionnel Léon Pavin, et lui qui va démarrer au 1er octobre, se termine au 5 juin, et là c'est 580 heures en centre et 490 heures en entreprise. En sachant que toutes les formations ont cette spécificité d'avoir des stages en entreprise qui ont 2 objectifs, de permettre donc aux stagiaires non seulement d'avoir une formation en centre, mais après de pouvoir l'appliquer en entreprise et de parfaire donc toute la partie théorique, enfin c'est pas que de la théorie puisqu'il y a de l'atelier, dans l'entreprise et peut-être aussi par ce biais-là découvrir une entreprise qui sera en capacité de l'embaucher ensuite.
Alors, je vous prie de m'excuser, une petite question qui me vient tout de suite à l'esprit.
Oui, oui.
Quand on commence un CAP d'électricité, je ne sais quoi.
Oui.
D'électricité quoi ?
ProElec.
Alors, d'électricité ProElec.
Oui.
Nécessaire d'être un petit peu versé là-dedans avant, ou peut-on être un parfait néophyte ?
Ah ben, on part avec des gens qui n'ont aucune connaissance. Hein. Donc voilà, l'objectif, c'est ça. Hein. L'objectif, c'est de partir de personnes qui n'ont aucune connaissance dans ce métier pour les amener à devenir des professionnels. Alors, j'ai pas la prétention qu'à la sortie d'un CAP sur une période qui est assez courte, on va dire, hein, de faire des professionnels avertis. Par contre, ce que je peux assurer, c'est que toutes les bases sont données et qu'après, il suffit à la personne de continuer à progresser dans une entreprise pour devenir un véritable professionnel.
Est-ce que le CAP peut être complémenté par des formations un peu plus pointues ?
Alors ça, c'est toujours possible, hein, c'est toujours possible. Ça, c'est dans un deuxième temps. Alors, par contre, moi, sur DI, je n'ai pas cette capacité-là, puisque c'est pas, on va dire, c'est pas un centre permanent bâtiment. Par contre, c'est vrai que certaines personnes continuent en bac pro, en alternance. À ce moment-là, c'est plutôt des contrats de professionnalisation. Ça n'a plus rien à voir avec la région. Et ça peut se faire sur le centre qu'on a à Nonnet, au lycée Boissy d'Anglas. Voilà.
Très bien. Je vous en prie. Alors, c'était les 2 premières, non? Les 2
et
suivantes.
Et puis, alors là, les 2 dernières. Encore une qui a lieu à DI, qui démarre le 15 septembre et se termine le 22 avril. C'est une spécialisation qu'on a depuis 15-20 ans et dont on a depuis décembre 2012 obtenu une certification nationale qui est l'ouvrier professionnel de la chaux dans le bâtiment. Et là, ça s'adresse à des gens qui veulent travailler dans la réhabilitation des monuments, des bâtis anciens, où là, on aborde le travail de la chaux, le travail des systèmes constructifs, briques plâtrières, les arcs, les voûtes, la gypserie, les escaliers voûtes sarrasines, les enduits de finition qui vont toucher donc à des techniques, on va dire, liées à l'Italie, hein, puisque les Italiens sont très forts là-dedans, c'est-à-dire le stuc, le sgraffito, les badigeons, donc des techniques anciennes qui, depuis quelques années, ont quand même un peu le vent en poupe, on va dire ça comme ça. Donc cette formation est très spécifique, elle a lieu ici à Die, mais j'ai aussi la même formation qui a lieu à Viviez dans l'Ardèche, et donc à la fin, donc, eux aussi ont une certification comme les deux précédents. Et puis vous avez ce qu'on appelle la mention complémentaire sommellerie, alors là c'est très spécifique, ça a lieu à Tain-l'Hermitage au lycée hôtelier, ça s'adresse à des gens issus de l'hôtellerie-restauration, c'est-à-dire CAP Service, CAP Cuisine, Bac Pro, BTS en hôtellerie, et à ce moment-là on va dans le métier de sommelier de restauration, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'intervenir dans des restaurants gastronomiques pour conseiller le client sur le vin, mais on peut aussi aller vers des caves particulières et exercer son métier là-dedans. Voilà. C'est une formation qui dure 720 heures en centre, qui démarre au 1er septembre, et il y a 525 heures en entreprise qui est une formation peut-être la plus longue que j'ai actuellement et qui est menée par un ancien sommelier de chez Pic, voilà, des gens qui sont des professionnels très très avertis. Et la spécialité aussi qu'on a par rapport à d'autres mentions complémentaires, c'est qu'on leur fait passer une certification anglaise, le Wine Spirit Trust of London, qui leur permet d'avoir le premier niveau de cette certification et de s'exprimer en anglais sur les vins. Donc du coup c'est intéressant parce que ça permet, que ce soit dans des restaurants gastronomiques en France, de traiter avec le public anglophone ou d'aller travailler à l'étranger, par exemple à Londres ou ailleurs. Hein, il y en a beaucoup qui vont à Londres. Voilà.
Alors petite question, oui. Vous avez réussi à décrocher le contrat auprès des mandataires, la région ou je ne sais qui.
Oui, la région, tout à fait.
Vous lancez une formation, vous êtes plein d'espoir et là... Patatras, il n'y a pas assez de candidats. Est-ce que ça peut arriver, ça ou pas?
Alors, touchons du bois, ça m'est encore jamais arrivé. Mais je reconnais que la partie recrutement chez nous est toujours un peu compliquée. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher des gens. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens motivés. Hein. Donc après, j'en trouve des gens. Hein. Mais si c'est pour traîner des gens pendant une formation où ils ne sont pas en adéquation avec le projet, il faut vraiment que le projet il soit ficelé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a véritablement envie de faire sommelier ou faire ouvrier professionnel de la chaux dans le bâtiment. Et à partir de là, on y arrivera. Mais c'est vrai que on a toujours un peu des difficultés de recrutement parce que c'est des métiers spécifiques. Hein. Donc moi, bien sûr, je suis persuadé que le bâtiment, moi-même issu du bâtiment, est un métier qui vaut le coup. On n'est pas obligé d'exercer ça pendant 30 ans non plus. Et une période de 5 ou 10 ans dans le bâtiment, des fois, est suffisante et permet d'avoir des compétences qu'on peut utiliser soi-même pour retaper sa maison, par exemple. Hein. Voilà, je pense quand même qu'à partir du moment où vous avez ces compétences-là, ça vous sert toujours.
Alors, oui. Monsieur Robin, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la semaine prochaine, du 16 au 21, c'est la semaine nationale du logement pour les jeunes. Ah. Et justement, on a parlé de vous, il n'y a pas longtemps, avec Madame Legfoun, qui travaille à la mission locale,
oui.
pour évoquer le sort de ces jeunes qui arrivent ici même pour faire des formations et qui dorment de temps en temps dans des camions, sous un arbre, sous un pin parasol, etc. Est-ce que vous avez une banque de logements, de colocation, est-ce que vous aidez les jeunes à trouver une solution ou pas?
Alors oui, on fournit à toutes les personnes qui arrivent en formation une liste de tous les hébergements possibles sur le DIWA qui est quand même très conséquente puisqu'on est quand même dans une région très touristique. Par exemple, j'ai plus de difficultés sur Viviers, mais ici, en règle générale, les stagiaires, donc on leur fournit une liste, beaucoup sont en colocation, et donc se réunissent et vivent ensemble pendant toute la durée de la formation. Maintenant, en ce qui concerne les camions, il y a aussi certaines personnes qui ont des choix très marqués et qui n'envisagent pas autre chose que de vivre dans leur camion. Voilà, ça, bon, on respecte, hein. Mais c'est vrai que souvent, peut-être que la dernière fois, je ne l'ai pas fait, mais souvent, donc, on fait appel à la mission locale. Je pense qu'elle est passée, ça nous est peut-être échappé, pour qu'elle intervienne auprès des stagiaires dès le début de la formation pour proposer des solutions.
Monsieur Robin, pour terminer, comment fait-on pour vous joindre ? Avez-vous d'ailleurs un site internet sur lequel on peut retrouver l'essentiel de ces informations ?
Alors oui, on a un site internet, le site du Greta Viva 5, hein, où on a toutes les informations dessus. Et deuxièmement, donc pour les trois formations proposées, c'est-à-dire CAP Proélec, CAP Installateur Thermique et l'OPCB de DI, donc on a un coordonnateur, Samir Jawadi, qui est joignable au 06 77 04 86 47 ou le secrétariat de DI auprès de Sylvie Vincent au 04 75 22 14 08. Par contre, la MC Sommellerie donc est gérée différemment. Donc, je vais vous donner mon numéro de téléphone personnel. À ce moment-là, si vous êtes intéressé, vous m'appelez au 06 77 04 86 53.
Monsieur Robin, je vous remercie et longue vie à vos formations.
Eh bien, bonne journée.
Au revoir.
Interview. 1-ter-view.
Ok, de bonne.
L'interview du jour. L'interview du jour.